Eo n'est pas n'importe quel âne. C'est un âne star. Le genre d'âne qui tourne des pubs de parfums pour Hermès avec des mannequins qui tombent immédiatement sous son charme. Une femme, deux femmes, trois femmes, Eo est polygame. Mais voilà, le jour de son 5e anniversaire, Eo a une révélation. Le monde va mal, la terre se meurt et il ne peut plus garder ses œillères face aux problèmes écologiques. Eo abandonne alors sa vie champagne-caviar pour s'engager dans la lutte. Alors qu'il est en pleine manif, le sabot levé, Eo est enlevé et jeté dans un camion. Pourquoi se questionne la foule? S'est-il fait annapper par des charcutiers corses qui veulent en faire du saucisson? Est-il enlevé pour sa beauté et pour qu'il participe au concours Little Miss Sunshine? Est-ce un coup de la mafia équestre dirigé par Anne Capone? Que nenni! Ce n'était point un annapping, mais tout simplement un transfert de foot, car Eo est en secret un immense joueur. Ailier droit de renom sur le terrain, le milieu du football l'appelle même Zidane. Obligé de jouer la finale régionale, il fera gagner son équipe avec une magnifique bicyclette dont lui seul a le secret. Mais malgré les victoires, Eo n'en a pas fini avec sa crise existentielle et l'importance de sauver le monde de la pollution qui la contamine. Alors, quand il apprend que la Coupe du Monde se déroulera au Qatar, c'en est trop. Il se libère de ses chaînes et galope à travers les plaines, la crinière au vent, libre et déterminé à stopper cette mascarade. Malheureusement, tout ne se passera pas comme prévu. Arrêté au Qatar par les autorités du pays qui avaient eu vent de son projet, Eo sera jeté dans une prison à la pointe de la technologie, surveillé par des chiens robots de chez Boston Dynamics. D'autant plus que l'on fera subir des expériences inhumaines sur notre héros qui vise à exploiter son don pour le foot. Finalement, Eo trouvera le moyen de s'enfuir, quittant dès lors toute civilisation et prenant retraite dans les montagnes où il rencontrera une marmotte maître Shaolin qui lui apprendra à utiliser ses dons footballistiques pour mettre fin à la folie des hommes. Utilise la force centrifuge de l'éolienne et devient le ballon. A partir de là, Eo n'est alors qu'au début de son aventure, car Eo fait son shonan.
C'est bien, vous aviez fumé avant de...
Voilà l'histoire que...
Bah non, comme quoi on n'en a même pas besoin.
Voilà l'histoire que l'on s'était imaginé dans notre épisode BA pour le film Eo. Mais qu'est-ce que ça raconte en vrai? Douille ou pas douille, ses critiques et celles de la presse, c'est l'heure du match retour de Eo.
DJ, keep that shit.
Ça te fait mal quand on te tire dessus?
Je ressens les blessures. La douleur est une simple information.
Votre discours était très éclairant.
Très éclairant? C'est du blabla, oui.
T'intéresses à qui? T'intéresses à quoi, toi? Est-ce que t'en as de la considération?
Tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul!
Bonjour et bienvenue dans le match retour de Eo, le dernier film de Jerzy Skolimowski, mon compte triple Scrabble, on le rappelle. Après vous avoir exposé nos attentes autour de sa bande-annonce, sont avec moi autour de la table pour revenir en avis sur ce film, mon troupeau d'âne préféré. Les beaux-âmes. L'odeur de l'essence. Clémence est là, salut Clémence.
Odeur de l'essence. Oui, je suis Orelsan, je le rappelle.
Kevin aussi est là. Salut, Kevin.
Oh, je ne sais plus quel âne j'étais.
J'étais un âne, je ne sais plus non plus. Et William, c'est nul. William aussi est là.
Ouais. Salut.
Salut, salut, William. Ah là là là, ma petite ferme préférée. Aujourd'hui, c'est l'heure du match retour de du réalisateur Mokon Triple, un polonais, avec son film Eo. Qu'on a vu en salle, on va vous en parler, on va faire sa critique, vous donner notre avis, on ira faire un tour du côté de la presse. Mais avant toute chose, nous allons vous dire que ce film va être spoilé. Donc oui. Si vous ne l'avez pas vu et que vous avez envie de le voir, évitez cet épisode pour le moment. Revenez l'écouter quand vous aurez vu le film. Ou bien peut-être que vous vous en battez totalement les steaks. Et dans ce cas-là, restez avec nous, c'est parti. On va se résumer le film. Parce que vous le savez, hein, bon... Même si on a débunké le film avec sa BA, n'est-ce pas? C'est Jerzy Skolimowski, quel artiste. L'histoire, à quelques détails près, ne peut ne pas être la même. On va du coup déterminer avec notre application La Roue de la Chance.
La Roue de la Chance.
Qui va résumer ce film.
Et Romain.
C'est parti tout de suite. J'espère pas encore une fois, s'il vous plaît, je vous en prie. Allez, le hasard, let's go. Et ce sera William.
C'est la première fois que je le fais depuis qu'on a mis en place La Roue de la Chance.
Je t'avoue, j'ai sué un peu. Hein.
Alors,
je suis pas loin.
L'histoire de Eo, et ben nous suivons les pérégrination d'un âne qui s'appelle Eo, qui est un âne de cirque, qui appartient à une jeune femme, Olga, Yalga.
Alors là, mon gars, je me souviens plus. Une jeune fille, oui.
Voilà. En gros, il participe à un numéro de cirque.
Sa dompteuse, quoi.
La loi dans le pays où il se trouve change. Les animaux sont confisqués. Et donc, on va suivre ses aventures à travers ses différents propriétaires. Donc, il va y avoir différents lieux, comme une ferme pédagogique pour enfants atteints d'handicaps. Enfin, c'est des handicaps mentaux, je pense, hein, des trisomies.
Ouais, c'est ça. C'est des... oui, oui.
Voilà, il va y avoir un entrepôt de chiens-loups pour les fourrures. Enfin, voilà, il va passer dans plein d'endroits différents. Il va se confronter aux hommes et à leurs défauts, mais aussi leur bonté, leur qualité. Donc, il va croiser un prêtre italien, défroquer un petit peu. Il va croiser une équipe de supporters qui vont essayer de lui faire boire de la bière.
C'est là où il gagne la coupe régionale.
Voilà. Et ce film se termine plutôt pessimiste, quoi. Hein. Il finit en salami. C'est un peu triste.
Voilà, le road trip de notre âne, l'incroyable voyage version Skolimowski. On a vu ce film, on a plein de choses à en dire. J'ai hâte d'en discuter avec vous parce qu'on l'a tous vu ensemble, déjà pour préciser. On est partis le voir tous les quatre ensemble au cinéma et on n'avait pas de mots à la sortie. Alors est-ce que les jours et les heures passant, est-ce qu'on a plus de mots aujourd'hui? Écoutez, on va ouvrir la page déjà du Douyou Padouille qui compare l'ABA et le film et on va se lancer à corps perdu dans notre critique. C'est parti.
C'était une douille.
C'est pas une douille.
Le Douyou Padouille, vous le savez, on compare l'ABA qu'on s'était faite avec le film qu'on a vu. Est-ce que c'est une douille? Est-ce que c'est un padouille? Le tour de table. Kevin, Douyou Padouille.
Bah, c'est une douille, enfin avec une BA qui nous vendait autant le monde du foot.
Parfaitement d'accord.
On se retrouvait devant un film où il n'y a même pas un ballon.
Ouais,
il y en a un, mais on le voit très peu.
Ouais.
Très décevant. Non, sérieusement, je trouve que j'ai une douille plutôt positive. Je trouve que le film il se tient beaucoup plus que ce que la BA laissait présager. Je veux dire par là que finalement la BA me donnait un peu l'impression que c'était un film un peu à la Malick, c'est-à-dire ce que j'aime pas chez lui, c'est-à-dire un peu décousu, un peu juste du planant et puis pas de narration. Et c'est tout le contraire en fait. Dans Léo, je trouve même s'il y a du planant, je trouve qu'on suit quand même une histoire qui se comprend. Quoi.
Tu nous expliqueras tout ça. William, douille ou pas douille?
Je dirais douille, mais ni positive ni négative. Douille, puisque la bande-annonce que j'ai vue juste un petit peu avant d'aller voir le film avait l'air de vendre un film vachement plus barré, avec beaucoup plus d'expressionnisme dedans, j'avais l'impression, avec ses plans qui tournent, ses couleurs qui tromboscopiques. Ce qu'on retrouve un petit peu dans le film, mais c'est toujours plus ou moins un peu justifié. Là, je m'attendais à quelque chose de plus décousu. On suit une narration quand même assez classique, donc plutôt douille de bande-annonce, mais je suis encore partagé sur le film.
Encore partagé. Clémence, douille ou pas douille?
Du point de vue du scénario, c'est une douille, évidemment, vu qu'on ne va pas au Qatar et j'en suis extrêmement déçue.
La déception.
Je fais pas de pub de parfum, cette âne. Mais par contre, au niveau formel, moi, je trouve que c'est pas une douille. Franchement, la BA, avec ses images déjà assez psychédéliques et tout, et assez contemplatives, je trouve qu'elle reflète quand même pas mal ce qu'il y a comme... Enfin, le style du film. En tout cas, je m'attendais à plus ou moins ça. Donc, c'est pas une douille, de ce point de vue-là.
Et toi, Romain?
Douille, attends, moi on parle de Coupe du Monde, on me parle de Qatar, on me parle d'un âne exceptionnel qui finalement se fait enseigner la vie par une marmotte Shaolin. Non, voilà quoi, y a rien de tout ça dans le film, c'est quoi ça, Jerzy Skolimowski, gros menteur? Non, pas du tout, non mais sérieusement, c'est vrai qu'on aurait adoré voir ce film, hein. D'ailleurs, voilà, les droits du film sont en vente, hein, venez nous les acheter. Mais non, c'était un film très intéressant à regarder, je suis encore partagé, je suis entre deux eaux là, je sais pas trop. Si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, je suis ni l'un ni l'autre. C'est difficile d'être binaire, hein, pour le coup. Donc le douille ou pas douille, c'est pareil. Hein. C'est trop binaire pour le dire, parce que l'ABA, on avait senti que ça allait être un film dur. On avait peut-être aussi senti ce côté larmoyant, parce qu'on sentait que ça allait pas finir bien pour cette âne dans l'ABA, avec en plus la musique qui. Mais après, en termes de conception de l'ABA, je trouve que le film est un peu. Version étirée hein, de l'ABA, c'est un film musical avant tout, il y a très très peu de dialogue et c'est normal parce qu'on est du point de vue de l'âne et un âne, ça parle pas. Donc voilà, mais il y a de très belles images, il y a quand même de très très beaux cadres. En plus le fait d'avoir choisi le format 4:1:33, c'est intéressant je trouve dans ce qu'il veut raconter. Après ce qu'il veut raconter, est-ce que j'ai bien saisi les choses? On comprend l'aspect allégorique, métaphorique du truc, mais... J'ai besoin d'en parler avec vous. On va rentrer dans nos critiques. Kevin, j'ai envie de te lancer. Tu as l'air d'avoir une vision peut-être plus posée que moi en ce moment, qui suis en eau trouble là, avec ce film.
Bah, plus posée, je sais pas. Après, il y a quand même encore des zones d'ombre dans le film, des zones d'ombre qui sont aussi le défaut, je trouve. Autant je trouve très facile à suivre en fait, le parcours de Stan dans sa psychologie, parce que là, c'est un peu le talent de comment il s'appelle, Skolimowski. C'est qu'effectivement, il réussit vraiment à donner des émotions au petit et au, bah, déjà parce qu'il y a le cadrage qui est très près de lui, qui contribue, mais il a vraiment choisi les bons moments, les bons regards. Enfin, il y a vraiment quelque chose, en tout cas dans la sélection des images, qui est vraiment très intelligemment faite, je trouve. Et bah, en fait, c'est une histoire d'amour avec sa dresseuse, qui est contrarié par leur séparation et cette espèce d'errance où il va, j'ai l'impression en tout cas, chercher de la retrouver en permanence sans jamais la trouver. C'est pour ça qu'il est tout le temps sur la route à essayer de s'enfuir, à partir de ses maîtres, etc. Enfin, c'est comme ça que je l'ai interprété. Mais j'ai du mal à comprendre tous les parcours humains qui jalonnent un petit peu ce film-là, où je trouve qu'ils ont assez peu d'utilité. Ils sont assez, enfin, ils sont, j'imagine, censés être mis en parallèle avec son parcours à lui, à cette âne, mais je vois pas vraiment ce que ça apporte. Je trouve que c'est un film qui aurait été plus fort s'il était uniquement centré du point de vue de l'âne et que les humains étaient vraiment en arrière-plan, alors que là il y a vraiment des scènes avec les humains au centre et l'âne n'est pas là. Et peut-être que c'est, voilà, une métaphore, une tentative de faire des parallèles, mais je les trouve pas vraiment pertinents. Je trouve que ça rend un peu le film confus parfois, malheureusement. Mais non, c'est un film que je trouve extrêmement touchant pour son propos, hein, sur la cruauté des hommes, mais aussi un peu leur bonté aussi. Est-ce qu'il y a des humains qui, en fait, ont des actions tout à fait louables, sur l'antispécisme, où on va montrer un âne et les animaux qui l'entourent avoir une espèce de connivence. On va les montrer avoir des émotions. C'est des vrais personnages qui ne parlent pas, et pour autant, on se met à leur place, quoi. Vraiment, je trouve que là-dessus, c'est vraiment très réussi. Et puis, l'aspect juste visuel et poétique est somptueux, quoi. Et c'est ce qui m'a plu, c'est que ça ne soit pas que ça. Moi, j'avais vraiment peur qu'on ait un truc à la Tarkovsky 100%, même si j'aime bien Tarkovsky, où vraiment, là, c'est que du poétique intégral, avec une histoire super cryptique et tout. Et finalement, l'histoire est assez simple à comprendre, ça suit, et on s'attache vite à ce petit âne, quoi.
C'est un film qui se termine tragiquement.
Qui se finit mal, ouais.
Oui, ben, il est Eo finit dans un abattoir, hein, bim, hop, salami. C'est très triste, c'est la triste réalité des choses. Et d'ailleurs, l'encart qui suit la fin du film nous dit clairement que ce film a été conçu dans l'amour des animaux et qu'aucun animal n'a été blessé, comme on peut retrouver dans beaucoup de films. Mais là, pour le coup, c'est vraiment, voilà, l'amour de l'animal qui est mis au centre. On sent, oui, voilà, cette envie aussi de défendre la cause animale du moment, hein, qui est très présent dans les actualités, hein. Et ouais, c'est fort. Après, est-ce que j'ai tout saisi? Je ne sais pas. C'est un peu chez père, un peu comme film, pour utiliser le mot. C'est pas chez père dans le sens péjoratif, mais en gros, moi, ce film, c'est un peu comme si c'était l'enfant de Terrence Malick et Gaspard Noé, quoi. Ce serait un truc ultra naturaliste, très contemplatif, mais avec des cadres osés et une photographie criante, notamment toute cette scène rouge qui revient plusieurs fois dans le film, où c'est plongé dans le rouge. Ça veut certainement dire quelque chose, parce que c'est un film qui est aussi ouvert à l'analyse, hein, comme un tableau de maître sur lequel on pourrait dire il a utilisé cette couleur parce que ça définit un truc. Mais j'ai pas tous les éléments. Vraiment, je me sens un peu con, en fait, c'est terrible à dire. Peut-être que je suis un âne, hein, face à ce film. Mais
un âne n'est pas bête.
Oui, c'est vrai, mais je veux dire...
Après, le film, il est pas parfait là-dessus aussi. Hein, parce que, enfin, moi, je pars du principe que quand on ne comprend pas un film, c'est pas parce qu'on est bête, c'est parce que le film, il n'est pas assez bien fait pour que tout le monde le comprenne.
Mais le côté beau du film, là où il y a le côté Malick, c'est que les images sont très belles. Vraiment, les cadres sont très beaux. Il y a des plans au drone qui sont somptueux, j'ai adoré. Il y a des plans sur des cascades, sur des arbres, plongés dans la nuit, des animaux qui surgissent, c'est super beau. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire. Peut-être que Clémence, tu vas rajouter de l'eau à notre moulin sur
Ouais,
Eo.
J'ai l'impression qu'au-delà du côté engagé animaliste, le film a quand même aussi une volonté de montrer les affres de notre monde quand même, à nous d'hommes. Par ce regard innocent de l'âne. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de rapport entre la violence et les massacres ordinaires de notre quotidien à nous, entre hommes, et vis-à-vis des animaux, mais sans différence, quoi. Et ce que symbolise cette âne dans cette histoire, c'est qu'il est vraiment l'innocence pure, la nature, l'envie de vivre, quoi, et l'envie d'attention, d'affection, l'amour. Et c'est vrai que du coup, les personnages qui sont positifs, les personnages humains dans le film qui sont positifs comme sa dresseuse au départ, sont caractérisés comme ça, par un pur amour et une pure affection vis-à-vis de lui. Donc je pense que le film est peut-être un peu une ode à, finalement, à la simplicité et à la vie, enfin, à la vie par l'amour et par l'écoute des autres et l'attention aux autres. Un truc que j'ai trouvé super intéressant, c'est que j'ai ressenti, plus qu'analysé pendant le film, le fait que souvent l'âne, dans ces situations où il est dans un haras à chevaux ou dans le jardin de gens super riches là, et qu'on l'a embarqué là, en fait il manque d'attention. Enfin, on ne fait pas attention à lui, on le met là comme un objet, on l'utilise comme un décor ou une mascotte, comme mais un en outil, vrai, on n'est ouais. pas si attentif à lui que ça.
Parce que les regards sont portés sur ces bâtards de chevaux qui
ouais, mais voilà, c'est
qui
ça. En fait,
la lumière.
J'ai l'impression qu'on nous fait presque passer aussi ce truc qui nous concerne nous aussi en tant qu'humains, c'est ce truc psychologique de des fois quand on fait pas attention à toi parce que t'es autre, t'es l'altérité et tout, et ça me fait aussi penser, tu vois, là je suis en train de faire des fils tout en le disant, c'est que il y a aussi des personnages humains qui sont montrés comme étant des gens un peu dont on se fout en fait, auxquels on fait pas gaffe, qui sont dans la misère.
Ouais, mais dans ce segment,
qui sont
un peu
des outsiders. Enfin, je sais pas comment dire.
Il est clairement montré comme un domestique, hein, l'âne. Hein. L'âne au service des chevaux,
ouais.
Vraiment, parce que c'est vrai que il y a le prestige animal. Je parle en termes animal. Il y a le prestige du cheval et l'âne qui est là juste pour, en gros, ouais. Là, il tire la carriole, il leur apporte leur foin. Eux, on les brosse, on les lave. Pendant que lui, il regarde tout ça de son œil et tout. C'est vraiment la domestique qui passe au second plan, alors que. Là, c'est l'aristo de cheval qui a tout le bénef, quoi.
Mais il y a ça, mais aussi, tu vois, le passage avec l'équipe de foot, où on a l'impression qu'il y a un moment un peu d'épiphanie, parce qu'il sert de mascotte à cette équipe de foot qui gagne, ils le prennent tous par le cou, ils lui mettent une écharpe autour du cou, et d'un seul coup, il est embarqué avec eux. Alors, t'as l'impression qu'il est intégré dans le groupe, presque, en tant qu'âne. Et en fait, pas du tout. Après, ils font une fête, ils le font boire, ils le font fumer, c'est presque de la maltraitance, déjà. Enfin, c'en est. Et surtout, au fil de cette fête, en fait, après, on le laisse sortir dehors et se faire massacrer sans y faire attention. En fait, il n'était pas vraiment intégré. C'est presque l'exemple d'une personne, même humaine, que tu utilises et après, tu la jettes. Quoi. Ouais. Voilà, donc je trouve que ça renvoie un peu ça. Et ce qui est intéressant, en effet, c'est quand même cet aspect animaliste du film qui fait que l'âne est traité comme un personnage. Donc, ce qu'on projette psychologiquement chez lui, on peut aussi le retrouver chez soi, comme ce que j'étais en train de dire, mais aussi... ça nous reconnecte par moments avec la nature, parce que ça, c'est un animal, et que quand il s'évade et qu'il va dans la forêt et tout, d'un seul coup, ben, son regard croise le regard d'autres animaux, comme les chouettes, comme les renards, et on prend conscience d'un seul coup de toute une sphère de notre vie, en fait, auquel nous, on n'est pas attentif, quoi, en tant qu'homme, parce que nous, on vit notre vie dans nos villes, dans nos trucs, voilà. C'est presque les invisibles, effectivement, du monde, tu vois, tous ces animaux dans la nature. Et un truc que j'ai adoré, c'est qu'il y a vraiment des ruptures de ton, tu vois, voilà, entre le moment du foot qui est presque marrant, qui est suivi ensuite par un truc absolument horrible et qui te crève le cœur, qui te fout une baffe. Et ce moment où il va dans la nature comme ça, t'as un peu peur pour lui, c'est presque...
Il y a des prédateurs, les loups.
C'est presque effrayant, quoi.
Il arrive, prédateurs, hein.
Il arrive dans la forêt la nuit, voilà, et il y a d'un seul coup presque une atmosphère de conte noir, un peu effrayant et tout. Enfin, voilà, je trouvais que c'était un voyage bizarre, mais prenant et intéressant.
T'as parlé du loup, William. C'est vrai qu'il y a un moment où on voit un loup, justement. On pourrait se dire il va s'en prendre à Eo, qui est perdu dans cette forêt, ouais, dans la nuit.
Il va s'en prendre à Eo, il est juste sauvé. Hein.
Parce que c'est un prédateur, sauf qu'il y a un prédateur qui est au-dessus des autres prédateurs.
Ah,
c'est l'homme. Et l'homme, là, à ce moment-là, décide d'abattre le loup. Est-ce qu'on n'est pas aussi là sur une vision, William, de... Moi, je suis sorti en pensant que, en gros, ce film... C'est pas que ça, mais ce qu'il nous dit pas, l'homme est un loup pour l'homme et qu'il sera toujours au-dessus sur la chaîne alimentaire et qu'on peut rien y faire.
Ce qui est étonnant avec ce film, c'est qu'en effet, des fois, t'as un peu de storytelling autour des humains dont ils croisent la route, mais qui sont déjà... qui restent en surface, qui nous impliquent pas vraiment, qui n'impliquent pas l'âne dans l'histoire. Du coup, comme dit Kevin, c'est des moments de vie... un petit peu étonnant. Bon, Isabelle Huppert, c'est bien. On l'a pas dit, mais Isabelle Huppert dans le film.
Ah, la surprise, ouais.
La surprise.
Alors là,
bon,
Isabelle Huppert qui est là, ouais.
Alors, est-ce que l'homme est un loup pour l'homme? Ça, c'est certain. Mais est-ce que dans cette histoire, cette Maxime vient prendre sa place? Je suis pas sûr. Par contre, ce que je trouve un petit peu dramatique dans cette histoire, c'est que l'âne, il subit complètement du début à la fin. C'est-à-dire qu'il subit la perte de son propriétaire, il subit dans la forêt... ce prédateur qui pourrait le tuer, mais en fait, il ne le tue pas simplement parce que, la chance, l'humain est là pour le... pour le sauver, mais sans vraiment vouloir essayer de le sauver. En fait, c'est vraiment juste une coïncidence. Derrière, il est du bon côté des supporters pour le match de foot, mais s'il avait été de l'autre côté, il aurait été parmi les supporters qui ont perdu. Tu vois ce que je veux dire ? Il subit complètement jusqu'à la fin où il est complètement mené à l'abattoir et puis il suit comme un débile des vaches. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? T'as l'impression qu'il finalement il ne maîtrise jamais rien, qu'il est toujours au bord de la compréhension mais sans jamais pouvoir agir. Comme dit Clémence, il est très souvent traité comme un objet ou même comme un meuble qui ne serait pas vraiment là. Je sais pas, j'ai trouvé le film profondément. Je sais pas, triste, un petit peu pathétique pour ce pauvre âne qui a l'air tout mignon. L'appareil Dolly humaine, elle fonctionne totalement. C'est-à-dire que tu vois dans son comportement et ses attitudes, t'as envie d'y voir du comportement humain et le même genre d'émotion et d'intelligence. C'est sûrement le cas, c'est dur de le savoir réellement. Hein, mais ouais, je sais pas. Le film, je suis un peu partagé parce qu'il y a des images que j'ai trouvées marquantes. Tous ces passages rouges qui annoncent le drame, hein, parce que c'est vraiment ça. Hein. À chaque fois qu'il y a... une séquence rouge, il se passe quelque chose, un oiseau qui meurt, un humain qui est assassiné, l'âne qui est battu par les supporters de l'équipe qui a perdu. Enfin voilà, c'est vraiment, ça annonce le drame jusqu'à la fin où il termine en saucisson. Je sais pas, le 4 tiers, c'est vrai que c'est intriguant parce que du coup ça nous rapproche de l'âne, ça nous permet d'être vraiment avec lui. Mais quand il se balade dans les décors, c'est ce que je vous disais hier, moi je trouve ça un petit peu dommage parce que du coup le 4 tiers, ça resserre l'image et on voit pas les décors, ou très peu.
Peut-être dans l'analyse, c'est peut-être pour exprimer la vision étriquée de l'homme, auto-centrée.
Peut-être, ou à l'inverse, la vision resserrée de l'âne qui voit pas tous les mécanismes de l'humain, tu vois, peut-être. Ce qui est dommage, c'est que c'est dommage de parcourir de si beaux paysages et de ne pas les voir en cinémascope, par exemple.
On les voit bien quand même, tu vois, il y a des images superbes.
On les voit quand il est en dehors. Tu vois, du coup, tu peux plus vraiment lier l'image. Il y a qu'un plan vraiment où il est au bord, où le plan est lointain, il est dans le cadre avec toute une nature, mais sinon, la plupart du temps, quand l'âne est dans le cadre, t'es extrêmement resserré, même quand il se balade dans le décor. Bon, après, moi, ça me va hein, de voir des décors sans l'âne à l'intérieur, mais bon, ça aurait été bien de le raccrocher à ça. Il y a des plans que je comprends pas. Par contre, dans le film, je comprends pas cette eau de barrage qui est en marche arrière à la fin. Alors on parlait de l'écoulement du temps, symbolisé par l'écoulement de l'eau.
Le côté immuable des éléments.
Peut-être,
mais... une volonté de revenir en arrière, elle est voilà, pas cool, était heureuse.
Je pense que c'est le genre de film dont j'aimerais lire une analyse un peu plus poussée. Kevin, ouais, tu me disais que dans
ça appelle à l'analyse. Hein.
Qu'il y avait des mecs qui avaient analysé la jalousie de l'âne par rapport aux chevaux à un moment. Moi, je suis complètement passé à côté.
Ouais, moi, j'avais pas vu.
Quand tu me le dis, c'est vrai que tu me dis, ah bah oui, ça peut avoir du sens. Est-ce que c'est pas aussi un des travers de l'homme de quand t'analyses tout depuis ton point de vue, t'as tendance à y voir les symboles que tu veux? J'ai l'impression qu'on fait peut-être un petit peu ça avec ce film. Je sais pas. En fait, je l'ai vu trop. Je suis encore trop partagé. Voilà. J'ai du mal à me décider.
Après, c'est un homme qui l'a fait. Donc, à mon avis, il doit avoir les mêmes obsessions que nous. Quoi.
Oui, mais par contre, ce qui est notable aussi, que j'ai beaucoup apprécié, c'est que la manière qu'il a de filmer les animaux est super. Enfin, vraiment, c'est pas anodin, je vous le disais, de filmer les animaux de face, les yeux dans les yeux, la caméra dans leurs yeux, quoi. Et pas de les filmer de loin, façon documentaire animalier à l'ancienne, quoi. Donc, tout de suite, ça les incarne. Et même pour aller encore plus loin, moi j'ai ressenti vraiment un truc très très charnel sur le cheval blanc là qui est lavé. Déjà j'avais jamais vu ça moi, juste l'image d'un cheval qui se fait shampouiner. Et il y a ce cheval blanc qui est vraiment très grand, très blanc, hyper soyeux, enfin voilà, hyper bien toiletté et tout. Et le moment où il est lavé, mais vraiment ça... La mise en valeur en fait, des muscles vraiment du cheval, c'est impressionnant. Quoi. Un corps de cheval, tu vois vraiment les muscles sous la peau qui affleurent. Et en plus, avec sa robe blanche comme ça, ça faisait vraiment pour moi comme une peau laiteuse presque, voilà, que tu rapproches d'une peau d'être humain avec des grains de beauté et tout. Et alors, je ne sais pas quelle était vraiment la signification dans la psychologie de l'âne. Est-ce qu'il est jaloux? Est-ce qu'il est séduit
non,
par ce cheval?
C'est la jument. Et je crois que dans l'analyse qu'ils ont faite, c'est que là, il était en mode fantasme total.
Tu vois, si c'est ça, en vrai, je trouve qu'on le ressent un
moi,
peu. Pour moi, il y a quelque chose de charnel.
J'ai plus vu... C'est même pas de la jalousie, c'est plus montrer que l'âne, il est là, invisible, derrière, pendant que les humains sont aux petits soins pour le pur sang qu'il y a en face de lui. Alors qu'en gros...
Mais ça exprime sûrement un peu tout ça. Hein.
C'est peut-être
ça,
qu'il y a tout. Après, si tu peux pas ressentir ça, tu détestes les chevaux. Tu vois pas de...
C'est vrai, mon avis est très peu objectif sur la question.
C'est vrai que, pour le coup, je vais rejoindre Romain. J'aime pas trop les chevaux non plus.
Ouais, race de Satan.
Voilà, déjà ils ont des pupilles rectangulaires et ça fait flipper. Alors je comprends, hein, je comprends que t'aies besoin d'avoir des pupilles rectangulaires pour voir en fait en longueur hein, les paysages pour peut-être, un âne, c'est plus pratique.
Ouais, ouais.
Mais ceci dit, je trouve quand même les ânes vachement plus mignons. Ils ont des têtes un petit peu disproportionnées par rapport à leur corps, ça les rend mignons.
Ouais, c'est cool.
Ils gambadent un peu manière pato.
Ils sont sympas, les ânes.
Ouais, voilà, ça, je trouve.
Mais maintenant, je vous comprends parce que moi, avant,
ils ont du caractère.
Voilà, j'avais rien contre les chevaux avant, mais ce film, je suis dans votre équipe maintenant.
Oui, mais en fait, c'est un peu nous de notre part dire oui, j'adore les chevaux, j'aime pas les chevaux, j'adore les ânes. Ah, un petit chiot, c'est mignon, mais pas de cette race-là, nanan et tout. Enfin, c'est vraiment genre jugement.
C'est tellement spécial.
On bien sûr fout, que c'est un quoi. Jugement.
On s'en fout qu'on les aime ou qu'on les aime pas, tu vois, ça reste des personnages.
Évidemment, mais on s'en fout, on a le droit de dire qu'on n'aime pas les chevaux.
Oui, mais c'est...
Regardez leurs yeux en fait. Ils,
je trouve qu'il y a un côté, on est toujours un peu objectifiant en mode comme ça devait être notre truc de compagnie.
Un cheval dans les yeux, il te sent.
Non, non, je veux pas l'avoir en compagnie, mais c'est juste que quand tu regardes, tu sens qu'ils. C'est comme les chats, il y a un truc derrière, il y a un plan.
Après, dans le film, il y a deux moments où l'âne va prendre des vraies décisions. C'est-à-dire qu'il ne se laisse pas porter par le courant. Il y a quand il décide de s'enfuir une première fois. Alors qu'il est plutôt dans un endroit sympa, puisque c'est une espèce de ferme pédagogique, où il le traite bien, où il est caressé par des enfants, qui lui donnent à manger. Bon.
Mais pourquoi il s'enfuit ?
Parce qu'en fait, sa propriétaire qui vient le voir, enfin son ancienne propriétaire du cirque, qui vient le voir, bah, clairement, c'est un adieu slash abandon.
Ouais,
mais elle vient remuer le couteau dans la plaie.
C'est
en
la
fait.
Rupture, quoi. C'est genre en mode.
Elle vient remuer le couteau dans la plaie. C'est-à-dire qu'elle vient pleurer sur lui pour dire ah, tu me manques trop, je vais revenir te voir. Et puis elle se barre. Clairement, c'est un adieu. Et lui, il doit subir ça. Donc, il fait cette décision de partir. Bon, ça va commencer à l'amener jusqu'au terrain de foot et qui va l'amener à se faire tabasser. Et la deuxième décision qu'il prend, c'est quand il est dans cette espèce de. Quand il est après avoir été soigné par les vétérinaires, il est embarqué par l'un des assistants du coin. Qui lui, pour le coup, va l'utiliser comme un objet. Il va tirer la charrette dans laquelle il y a les chiens.
Les chiens livrains,
là, qui sont utilisés pour leur fourrure. Et là, il va lui mettre un coup de sabot comme s'il avait de l'empathie envers ces chiens qui sont amenés à la mort. Et
il y a un échange en plus entre celui qui est dans la cage et Eo, justement.
C'est-à-dire que les deux actions que fait l'âne, la première, c'est par amour pour l'homme. Et la deuxième, c'est par détestation de l'homme. Et est-ce que c'est volontaire ? J'en sais rien.
Et ça le condamne à mort.
Et ça le condamne à la mort à la fin.
Je trouve qu'on sent vraiment une sorte de ras-le-bol et de révolte au moment où il se contrôle pas et il tue cet homme. Quoi.
Mais c'est déjà fataliste dès le départ, hein. Tu sais que ça va mal se finir. C'est sûr.
Et pour le coup, dans la salle, ce qui est marrant, c'est que moi, quand il met le coup de sabot, j'étais là genre « chais !» Et j'ai vu Romain faire « yes !»
Ah oui, bien fait pour ta gueule, bien sûr.
Et tout le monde a réagi dans la salle et c'était comme quoi vraiment on arrive à... C'est ce que disait Clémence, l'itération elle est quand même assez particulière chez l'humain parce que dès que ça a des jambes, des yeux, des oreilles, on arrive vachement vite à se sensibiliser alors que imagine la même histoire avec une huître et tout le monde s'en bat les couilles alors que c'est un être vivant tout pareil, tu vois.
Ça va être moins dynamique comme film. Hein,
non mais tu vois ce que je veux dire, dès que ça a des pattes, ça va, on arrive à peu près
Ah non, par contre, regardez La Sagesse de la Pieuvre.
Ah oui, mais c'est un très bon film. Oscar,
ça a des tentacules et c'est très touchant
Oscar,
aussi.
Oscar,
mais ça a des yeux, mais pas des huîtres.
J'aime pas les pieuvres.
Non, mais
c'est
ça. Ils savent ouvrir les beaucoup de champs, c'est un problème.
J'ai rien contre les pieuvres. Non, je suis pas non plus raciste des chevaux, mais bon.
Non, mais
historique.
Team âne et team poney. Voilà, moi je suis plus petit court sur pattes. Voilà.
Ok, bon.
Les chèvres, le pouvoir aux chèvres.
Bien sûr. Il y a plein de choses à dire sur ce film. Je sais pas si on a la capacité pour. On va peut-être laisser parler la presse pour peut-être nous aider à éclaircir notre jugement.
La presse, bien sûr.
Et allez, la revue de presse.
La revue de presse.
Les journaux spécialisés dans le cinéma et autres sites internet
bien sûr.
Ont gratté leurs plumes afin de parler de EO.
Bien sûr, évidemment.
Dites-nous, mon cher
évidemment.
Ami.
Bah déjà, c'est un film qui a quand même été bien reçu par la presse, qui a d'excellentes notes. On est sur du 75 sur Metacritic, 97 sur Rotten Tomatoes et 4,2 sur Allociné. Donc c'est quand même un film à l'international qui a été très bien reçu.
Bah, il avait été primé à Cannes, hein, donc c'était déjà signe de gageur de
prix
qualité.
Ouais.
Et je vais commencer avec nos amis de Bande à Part.
Ah.
Les poteaux.
Nos amis qui ont totalement arrêté les maths.
Ah, parce que j'ai l'air la parabole.
Si pour un peu triste. Et ils nous le disent, on revient des hauts comme d'un voyage extraordinaire, on revient d'une odyssée surréaliste aux malles pleines de poésie, de fantaisie, de mélancolie et de tragédie. Et par-dessus tout, de sentiments, les sentiments d'un âne amoureux d'une âme humaine qui l'avait caressée avec tendresse et bonté. Séparé d'elle, il ne cessera de la chercher par-delà les frontières, à travers les pays, les champs et les montagnes. Il s'entêtera à la recherche du temps perdu de l'amour et le périple sera semé d'obstacles. La cruauté et la violence des hommes dressés son chemin seront également là. L'âne Eo est menacé par la bête humaine immonde. L'âne Eo, pourtant, ne renoncera jamais à la plus pure et la plus innocente histoire d'amour jamais rencontrée.
Oh, j'entends le bruit des cascades.
Okay. Les maths sont bien loin.
Quel lyrisme.
Nous sommes sur le lyrisme.
Quel lyrisme.
GQ, le magazine des hommes.
Des hommes bien habillés.
Cette âne à la classe.
Cette âne est super bien sapée.
Quelle belle robe.
Ce gris anthracite m'a laissé pantois tout le long du film.
Non, GQ nous dit, dans ce regard d'un noir abyssal, d'un âne faussement impassible et à la démarche comique comme par inadvertance, Jerzy Skolimowski reflète les derniers jours d'un monde qui court à sa perte, gorgé d'une humanité devenue spectatrice de sa propre déliquescence, rouage d'un compte à rebours mortifère dont elle ne prend pas encore conscience. En se délestant du langage humain et de la tentation de l'anthropomorphisme, le réalisateur polonais redonne aux images leur superbe pouvoir évocateur et oblige le spectateur à aller cueillir lui-même dans les yeux et les respirations tourmentées de son héros à quatre pattes le sens du récit qui lui est conté. À la fois odyssée exaltante aux dimensions homériques, poème visuel au spleen omniprésent et fable animiste, Eo demeure surtout un objet de cinéma d'une beauté absolue, aux multiples niveaux de lecture et à la richesse insoupçonnée.
Eh ben...
C'est vrai qu'il y a peut-être un parallèle à faire avec l'Odyssée d'Homère. Hein.
Bah, les voyages, toujours. Hein.
Non, mais je suis en train de. Tu sais, c'est souvent un truc qu'on fait en analyse. Où tu te dis, attends, là, il y a un truc avec l'Odyssée d'Homère. Mais là, tu vois, par exemple, le robot, là, il a qu'un œil. Ça pourrait être le cyclope. Qu'est-ce qui pourrait représenter les sirènes? Il y a un truc. Il y a un truc à faire. Comme ils avaient fait avec Obroder, tu sais, c'est parce que c'est l'Odyssée adaptée, oui, oui. Quoi. Oui. Je vais peut-être me replonger là-dedans.
Mais
c'est peut-être ça.
Que... Et au. Hey, hey. Et Homère.
Et Homère. Et Homère Simpson. Et non, on se perd.
Les donuts. Criticat, le journal des chats.
Je te viens le donuts.
Je vois le donuts.
C'était ça l'éolienne, c'était pas le ballon.
T'en avais mal compris.
C'était le donuts.
Oui. On avait mal compris.
Oh, punaise.
Donc, le journal des chats, Criticat, qui titre sa critique Anne Archie. Ah, on l'avait pas, on n'y avait pas pensé à celle-là. Bravo. On applaudit un peu Anne Criticat.
Voilà. C'est moins bon que nous.
Le film a beau reprendre le principe moteur d'Au hasard Balthazar de Bresson, c'est-à-dire suivre les aventures d'un animal maltraité passant de propriétaire en propriétaire, il s'en écarte nettement par son penchant pour l'expérimentation et l'étrange plasticité de ses images, plus nettes que nettes. Ici, l'errance de l'âne vise plutôt à mettre sur pied un drôle de laboratoire figuratif. Il s'agit de voir l'animal aller à la rencontre du monde et du chaos qui l'anime. Si le film n'est pas sans errement, de sa mise en route un peu timide au passage centré sur les personnages humains moins inspirés, sa réussite tient à un réjouissant mélange des genres, proposant une sorte d'horreur burlesque. Skolimowski parvient avec une aisance surprenante à passer de la légèreté d'un film d'aventure à la gravité d'une vérité tragique vers la mort.
Ah, je suis assez d'accord avec tout ce qu'ils ont dit.
Ouais. Bah, par contre, ils font le... forcément, ils relient avec un autre film d'Anne, hein, de Robert Bresson. Au hasard Balthazar, moi je l'avais étudié quand je faisais mes études de cinéma. On nous l'avait montré. Oh, je vais dire tout ce que tout le monde pense tout bas, mais poah là 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 là, qu'est-ce que c'était chiant. C'était d'une chianteur, franchement. À côté, Eo, c'est un film d'action.
Ok.
Mais je te jure, donc
tu le conseilles pas du coup.
Il est souvent cité. C'est un film à voir et tout. Voilà, c'est important. Après, pour comprendre le cinéma. Mais c'était chiant au hasard Balthazar. Putain.
Il y a d'autres films qu'on peut citer qui ont suivi comme ça les pérégrinations d'un animal. On peut parler de l'ours de d'Anneau. On peut parler.
Malice.
Ouais, on peut parler Benjamin Manis, on peut parler Cheval de Guerre. Cheval de Guerre.
Avec... Stuart Little.
C'est marrant. Bernard et Bianca.
Alvin et les Chipmunks.
Basso, le chien héros.
Zootopie, alors là, c'est...
Napoléon en Australie, seriously.
C'est quoi ça?
C'est un perroquet.
C'est un film production Disney de quand j'étais petite, c'est pour les enfants.
Et au début,
c'est un petit chien.
C'est qui l'animal? Ah, encore un chien?
Ah, et au début, quand le film a commencé, je me suis dit, ah, ça se trouve, c'est genre L'Incroyable Voyage, tu vois. Genre les chiens qui essaient de retrouver leur maître. Bah,
ah
c'est
oui,
pareil,
oui.
Tu vois.
C'était le feu, L'Incroyable Voyage.
Et Le Chat venu de l'espace, trop souvent oublié.
Non, si.
C'était un de mes films
ouais.
préférés.
Ouais.
Le Parisien. Le vieux cinéaste chante la beauté à couper le souffle de la nature, des forêts, des arbres et d'un monde silencieux que l'homme défigure. Film très noir et tendre d'une beauté foudroyante, et Eo nous conjure de respecter l'autre.
Ouais.
C'est assez vrai.
C'est ça.
Mais, vous allez vous respecter les uns les autres, bordel de merde.
Respecter le monde animal, parce qu'on en fait partie en plus. Donc respecter les animaux, c'est se respecter soi-même. Amen.
Bon, y a des gens
les autres animaux.
Il y a quand même des gens qui n'ont pas aimé. J'ai trouvé des critiques pas très gentilles.
Bah écoute, il faut de tout pour faire un monde, voilà, nous sommes dans l'acceptance.
Après, ça reste... Non, enfin, c'est pas non plus... Il lui chie pas dessus non plus, quoi. Avoir à lire. On comprend très vite que derrière ce portrait animalier, le réalisateur entend dénoncer un monde paradoxal et cruel où les bonnes intentions en matière de défense des animaux côtoient les pires comportements. Mais Sklimowski abuse des effets spéciaux, des musiques fortes, au détriment d'une mise en scène qui aurait gagné à plus de simplicité et de dépouillement. On ne voit plus que la surenchère de sons, de couleurs, et l'âne finit par devenir accessoire dans le récit.
Alors, est-ce que je peux faire une petite précision que je n'ai pas donnée dans mon avis ?
C'est trop tard, William.
Il y a une chose avec laquelle je suis d'accord dans ce qu'ils ont dit, c'est que même si j'ai aimé les musiques, j'ai trouvé le film assourdissant. Vraiment, je suis sorti de là, j'avais mal au crâne, j'ai trouvé que... Les musiques étaient très fortes tout le temps. Alors, est-ce que notre salle était mal réglée ? Je pense pas, parce que ça vous a pas plus dérangé que ça. Mais j'ai trouvé vraiment le film
Moi, c'est pas que ça m'a pas dérangé, c'est que j'ai apprécié ça, en fait. J'ai trouvé que c'était un parti pris intéressant. Je me demande si c'était pas voulu. Tu vois, le côté assourdissant, pour moi, faisait partie de l'expérience sensorielle.
Le côté, quand t'es dans l'audition de l'âne, avec les sons filtrés dans le haut du spectre, ça, j'ai trouvé ça malin. Mais en fait, t'as... pas un moment où tu respires d'un point de vue auditif, c'est-à-dire que ça peut être le début avec cette séquence dans l'espèce d'usine avec le métal et les tracteurs et les, enfin vraiment c'est, j'ai trouvé que même quand il est dans la forêt, ce brouhaha de la forêt,
moi j'ai trouvé ça super prenant.
C'était presque trop fort. Je veux dire, tu peux mettre 10 dB de moins, c'est pareil, tu l'entends tout pareil, mais
oui, mais ça ferait pas le même effet justement.
Vraiment, je suis sorti là, j'avais mal au crâne.
C'est parce que la folie des hommes ne connaît pas le silence.
C'est beau ce que tu dis, mais je pense que tu as raison. C'est, à mon avis, c'est aussi la manière de Keo a de percevoir le monde. Il est assourdissant une fois qu'il sort du cirque.
Je comprends l'idée, mais moi, quand je suis sorti, vraiment.
Mais t'as aussi une ouïe de chauve-souris, toi. C'est
non,
un truc
non,
de
non,
messie.
Ouais, t'entends pas comme nous.
Il y a un mec qui fait tomber une pièce en bas, là, tu l'entends.
Non, mais je suis pas le seul à le dire. Donc, c'est que même si peut-être j'ai une ouïe qui est légèrement plus sensible, et encore, moi je suis à moitié sourd quand même d'une oreille, vraiment, j'ai juste trouvé qu'en termes de mixage, et là, il faut en parler un petit peu. En gros, techniquement, au cinéma, il n'y a pas de normes de mix. Il y a des normes de diffusion. C'est-à-dire que les enceintes sont calibrées à un certain niveau. Mais le mixeur, il fait un peu ce qu'il veut. C'est pas comme en télé où tu as des normes à respecter. Donc, il suffit que ton mixeur, il est mixé un peu fort parce que dans sa salle, ses enceintes ont une certaine couleur, etc. Et dès que ça arrive dans ta salle à toi, tu peux avoir un son vachement plus clair que ce qu'avait le mixeur et du coup, un peu plus agressif. Bon, c'est peut-être ce qu'il y a eu pour moi, en tout cas. Mais quand je suis sorti de là, j'avais mal au crâne, quoi.
C'est peut-être intentionnel, c'est ça la mise en scène puissante, Théo.
Il a fait exprès.
Il voulait te rendre comme ça, sensible au brouhaha du monde.
Mais c'est vrai qu'il a une ouïe supérieure, mais comme là, dans la série, le mec avait tous les sens augmentés, là, j'ai oublié comment ça s'appelait ça.
Superman.
le truc avec Bradley Cooper, là.
L'homme qui valait 3 milliards.
C'était sur M6 dans la trilogie du samedi, j'ai oublié.
Prison Break ?
The Sentinel,
je sais pas.
Il a des oreilles rotatives, contrairement à lui.
Contrairement aux humains.
Entendre plus de choses.
Bien sûr.
C'est trop bien d'avoir ça.
Ouais.
Tu pourrais les incliner comme tu veux, tes oreilles.
Tu pourrais te les boucher comme ça. Oh,
comme les rétroviseurs de voiture, t'as une petite télécommande pour incliner l'oreille gauche, l'oreille droite.
Dès que quelqu'un t'emmerde, tu sais, tu tournes tes oreilles. Ouais, vas-y, t'inquiète, je t'écoute. Ouais, continue.
Pas les cons, allez hop.
Et je conclurai avec Paris Match. EO s'affranchit de toute narration classique pour proposer un trip formel souvent impressionnant, un peu redondant aussi, avec cette volonté parfois trop appuyée de trouver une chute à chaque séquence.
Oh!
C'est vrai qu'il y a un truc dans les transitions qui peuvent se faire. Il y a pas de cut. Enfin, il y a un cut un peu trop agressif, quoi. Des ellipses que tu.
C'est les séquences rouges en fait qui déterminent les différents actes du récit.
Ouais, mais d'un coup, on le voit à un point A, il y a une ellipse. On ne sait pas combien de temps s'est passé. On le retrouve dans un autre décor ou bien dans une autre situation. Ok, mais on a compris en gros, quoi. Je trouve pas que ce soit vraiment un défaut du film.
Ah d'ailleurs, on n'a pas parlé, mais il y a un super plan de drone incroyable.
Ouais, de ouf, très très beau plan de drone.
Qui arrive à suivre en plus à un moment les pales de l'éolienne et ça suit parfaitement tout. Enfin, c'était vraiment.
Ouais,
techniquement, c'est très très bien réussi.
Très joli. Mais il y a quand même une séquence sur laquelle je m'interroge, on l'a mentionné tout à l'heure, mais la séquence du robot Boston Dynamics, je ne l'ai pas compris.
Mais gros bizarre. Je pense que c'est peut-être une manière d'interroger.
Notre rapport à l'animal ?
Le rapport à l'animal.
Est-ce qu'on le voit comme un objet peut-être ?
De l'objectifier, d'en faire des presque armes.
Si à un moment, tu sais, il se regarde dans. Enfin, le robot voit son reflet dans une espèce de flaque. Et après tout ce brouille, moi j'avais l'impression que c'était une projection d'EO dans le robot. mais je n'en comprends pas le vrai sens.
Oui, moi j'ai cru qu'il s'était transformé en robot, tu vois, parce que ça se passe au moment où il est complètement laissé pour mort.
Ouais.
Et j'ai cru que c'était une transition rapide, enfin une ellipse qui en fait est devenue robot
ouais,
après.
Est-ce que c'est une manière de dire que finalement il est le jouet des hommes et comme nous on est capable de faire notre propre jouet maintenant.
Qui s'inspire de la nature en plus.
Qui s'inspire de la nature. Bah je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a
un truc.
Tu
as ton robot
mais
et tu le prends, tu le jettes, tu le casses.
Voilà.
Donc, il est cassé, j'en veux plus.
Et puis il y a un rapport à la conscience de soi, la conscience des autres, tout ça. Le déterminisme et le non-déterminisme.
C'est ça. Bon, ça m'a laissé dans la compréhension.
L'existentialisme est un humanisme.
J'ai envie de m'allumer une pipe là, les gars, je vous dis, là, il parle cinéma tout à l'heure.
Attends, je vais chercher ma robe de chambre, j'arrive tout de suite.
J'ai envie d'écouter du Chopin.
Prends les pantoufles.
Chopin, ouais, j'ai envie d'en lire.
Une cheminée, vite.
Ok, merci mère pour la revue de presse.
Mais de rien.
En tout cas, un film qui pose beaucoup de questions et qui donne envie de s'intéresser un peu plus à ce que veut dire le film.
Figuratif.
Et trouver des réponses. Voilà. Mais peut-être qu'interroger la nature, c'est ça qui est le plus important. Avant toute chose, le respect de cette dernière.
Je vais aller voir un pigeon, je vais l'interroger.
Les pigeons, c'est de la sale race et des rats volants, on l'a déjà dit.
sur mulot volant.
Ah, putain. Voilà, les pigeons, la nature, la vie. Et oh, Jerzy Skolimowski.
Isabelle Huppert.
Et Isabelle Huppert, bien
on
sûr.
On embrasse
Isa,
ça m'a déjà fait plaisir de l'avoir.
Le soleil de nos nuits. Écoutez, on va se dire déjà au revoir sur notre critique,
déjà.
Léo. Mais oui, allez, on vous dit ce qu'on match retourne la prochaine fois. Voilà, c'était le match retour des hauts de notre réalisateur polonais Mokon Trip, Jerzy Skolimowski. Un film qui nous donne envie de s'intéresser à l'analyse cinématographique. La semaine prochaine, nous match retournerons Amsterdam de David Russell.
Amsterdam.
Voilà, et là, c'est un casting beaucoup plus imposant que celui des hauts. Casting 5 étoiles, caviar, champagne, penthouse.
De David Ho.
Retrouvez nos épisodes sur toutes les plateformes d'écoute, toutes les plateformes de podcast, sur le site fetabea.fr et retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Allez, il est l'heure de fermer la ferme. Revenez dans votre enclos, mes beaux ânes.
On se fait quelques tranches de salami.
Oh putain, William.
Ça m'a donné faim.
L'odeur de l'essence.
Allez, ciao, bye bye. Et
bisous.
À la prochaine.
Bisous.
Salut.
Arrivederci. 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 Arrivederci.